Mais voilà, j'aimerais qu'on lise dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous savez, mais la Bible est un livre d'images, un livre d'histoire. Et si vous lisez la Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a presque la moitié de l'histoire. Ce sont des histoires. Et ces histoires sont, vous savez, quand le soir, quand on couche les enfants, je ne sais pas toi, mais papa, raconte-nous une histoire. Et dans un sens, Dieu nous raconte des histoires. Mais ce n'est pas pour nous divertir. C'est pour nous faire réfléchir. C'est pour nous faire découvrir des choses. Alors la Bible est un livre d'histoire, mais c'est un livre par lequel Dieu veut nous faire du bien. Toutes ces choses sont écrites pour nous instruire. Je propose qu'on regarde un peu l'histoire d'un roi qui s'appelle Ézéchias. Alors, c'était à midi moins le quart, on est parti quand même avec un tout petit peu de retard. Peut-être qu'on ira plus loin. Je propose de lire dans Ézéchias 29. Cherchez pas le livre, il n'existe pas. Deux Chroniques, chapitre 29. Ézéchias est quand même un roi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était question de lui dans le livre des rois, il est question de lui dans le livre des chroniques, et il y a son histoire aussi dans le prophète Ésaïe. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres rois comme ça. Alors bien sûr, il y a David qui a eu des chapitres et des chapitres, mais Ézéchias, trois histoires et des circonstances assez extraordinaires. On va commencer à lire au chapitre 29. Ézéchias commença de régner étant âgé de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites et les assembla sur la place orientale et leur dit: écoutez-moi, lévites, maintenant, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et jetez la souillure hors du sanctuaire, car nos pères ont été infidèles et ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et l'ont abandonné et ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Même, ils ont fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes et n'ont pas fait fumer l'encens et n'ont pas offert l'holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. Et la colère de l'Éternel a été sur Juda, sur Jérusalem. Il les a livrés à la vexation, à la destruction, au sifflement, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, et nos filles, et nos femmes sont en captivité. Maintenant, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour que vous vous teniez devant lui pour le servir, pour être ses serviteurs et ceux qui lui offrent ce qui se brûle sur l'autel. Et les Lévites se levèrent, Makkat, fils d'Amasi, Joël, fils d'Azaria, d'entre les fils des Kéatites, et d'entre les fils de Méhari, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaléel, d'entre les Gershonites, Joac, fils de Zima, et Éden, fils de Joac, et d'entre les fils d'Élite, Saphon, Shimri et Jéiel, et d'entre les fils de d'Azaf, Zacharie et Matania, et d'entre les fils d'Émon, Jéchiel et Shimi, et d'entre les fils de Jédutun, Shemaïa et Uziel. Ils rassemblèrent leurs frères et se sanctifièrent. Ils entrèrent selon le commandement du roi d'après les paroles de l'Éternel pour purifier la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils jetèrent dehors au parvis de la maison de l'Éternel toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel. Et les Lévites le prirent pour les jeter dehors dans le torrent du Cédron. Ils commencèrent à la sanctifier le premier jour du premier mois, et au huitième jour du mois, ils vinrent au portique de l'Éternel et sanctifièrent la maison de l'Éternel pendant 8 jours. Et le sixième jour du mois, ils eurent achevé. Ils entrèrent chez le roi Ézéchias et dirent: Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, et l'autel de l'Holocauste, et tous ses ustensiles, et la table des pains sans levain en rangée, et tous ses instruments. Et nous les avons mis en état et sanctifié tous les ustensiles du roi Akaz, que le roi Akaz avait rejeté pendant son règne, pendant son péché. Et voici, ils sont devant l'autel de l'Éternel. On continuera tout à l'heure. Vous vous rappelez peut-être l'histoire des rois dans le livre, aussi bien dans le livre des Chroniques que le livre des Rois, c'est à en pleurer. Il y a quelque temps, j'ai un peu étudié on a présenté à Format Bible les livres historiques. Et il y a une chose que je n'avais jamais réalisée, c'est combien Dieu a été patient avec le peuple. C'est inimaginable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand Josias, c'est un peu après, Josias, il y a un réveil au temps de Josias, il va tout nettoyer. Dans le temple de l'Éternel, à la place de l'arche, il y avait la statue d'Astarté. Dans le temple d'Éternel, il y avait des petites huttes où il y avait des prostituées et des prostituées et eux, saintes, enfin je sais pas, religieuses, je ne sais pas comment dire. Dans le temple de l'Éternel, il y avait des chevaux qui étaient réservés pour le culte du soleil. Sur le temple de l'Éternel, il y avait des toutes sortes d'idoles qu'avait mis Akaz autour de la ville. C'était ça, à la sortie de la ville, partout. Et c'était le peuple de Dieu. Et Dieu avait vu ça, l'avait supporté, avait patienté. Alors on dit, mais pourquoi il y a eu tant de choses après la transportation des morts exterminés? Mais quelle patience! C'est l'histoire des rois et l'histoire d'Israël, c'est une longue histoire de la patience de Dieu. Et au fait, notre histoire, c'est laquelle? L'histoire de l'Église. Vous voyez bien que on peut être instruit par ce qui se passe là, non pas pour, pas simplement pour montrer du doigt, mais que se passe-t-il? Ézéchias, il a 25 ans quand il devient roi. Il avait été pendant quelques années avant co-régent avec son père Akaz. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si on lit le prophète Ésaïe au chapitre 7, Akaz vient avec un de ses fils. Il y a des attaques par les Assyriens et puis il rencontre Ésaïe et un message de Dieu. « Prends garde et sois tranquille », chapitre 7, verset 4, « et ne crains point, car que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tison fumant que sont Retsin de la Syrie, Rehemaïa. » Alors c'était la Syrie qui venait. Un peu plus loin au verset 9, la fin, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Je vous rappelle qu'Akaz, on va voir un peu ce qu'il a fait, à Akaz, Ésaïe va annoncer la venue d'Emmanuel. Et Akaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des images de fonte pour les Baals, il a fait ça. Il a fait fumer de l'encens dans la vallée des fils de Himon. Il brûla ses fils par le feu selon les abominations des nations. Il a fait des sacrifices d'enfants. Un peu plus loin, le roi de Syrie vient, il va choisir les rois de Syrie, il va fermer les portes de la maison de l'Éternel. Et dans chacune des villes de Juda, il fit des hauts lieux pour les idoles. Et à Akaz, Ésaïe va parler de la Vierge concevra et enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Au milieu de ça, il y a la lumière au bout. Et je crois qu'Ézéchias a entendu ça. Un peu plus loin, il a entendu aussi « Prenez un conseil, il n'aboutira à rien ». Chapitre 8, verset 10 d'Ésaïe. Dites la parole, elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. Donc, cette parole s'adresse aux ennemis. Faites tout ce que vous voulez, mais Dieu est avec nous. Et un peu plus loin, ne dites pas conjuration, verset 12, à tout ce qui est, tout ce dont ce peuple dira conjuration. Ne craignez pas leurs craintes, ne soyez pas effrayés. L'Éternel des armées, lui, sanctifie-le, et que lui soit votre crainte, et lui votre frayeur. Il sera pour sanctuaire, pour pierre d'achoppement, un rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël. Un peu plus loin, verset 16, « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples, et je m'attendrai à l'Éternel qui cache sa face de la maison de Jacob. Je t'attendrai. » Et peut-être une chose qui a caractérisé Ézéchias, c'est ça, Dieu est avec nous. C'est sanctifier le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. C'est revenons à la parole de Dieu. Parce que la clé dans ta vie, dans ma vie, est là. Alors Ézéchias, pendant toute une série de sa vie, il était co-gérant avec son père. Et il a vécu ça, il a vu la porte du temple qui a été fermée, il a vu tout ça. Alors c'est désespéré, on ne peut plus rien faire, ce n'est pas possible. Tout est écroulé, tout, il n'y a plus rien. Soyons découragés, il n'y a plus rien à faire. Mais si. La première année de son règne, le premier mois, il ouvre les portes de la maison de l'Éternel. Première année, premier mois, il ouvre. Et à ce moment-là, il appelle les Lévites, ceux qui étaient responsables de la maison. Et il leur dit, et vous avez lu, on l'a lu, j'ai mal lu, pardon, mais il y a maintenant, maintenant, maintenant. Il se lève, c'est maintenant le temps de se lever. Il appelle les Lévites, il est seul, il a les Lévites, on a la liste des Lévites, et si j'ai bien compté, il y en a 14 qui vont venir. Et ces 14 vont faire venir les autres Lévites. Et puis ensuite, il va y avoir le reste du peuple. Et partant d'Ézéchias qui s'est levé et qui a dit « on y va », vous savez, c'est contagieux. C'est une maladie contagieuse, le réveil, l'enthousiasme pour le Seigneur. Et par qui ça commence ? Par toi. Ézéchias n'a pas entendu que les autres bougent. Alors vous me direz, il était roi. Il pouvait être découragé. Il pouvait se dire, c'est pas possible, on peut plus rien faire. Il faut commencer peut-être par réfléchir, faire des conseils, faire des commissions, je ne sais pas trop quoi. Non, non, il se lève. Et il y va. L'histoire d'Ézéchias, c'est une histoire d'un des réveils d'Israël. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ça commence par une personne. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est le problème? Tout est souillé. Tout est souillé. Et il va falloir commencer à l'intérieur de la maison de Dieu. Et puis ensuite, un peu comme pour que la guérison se fasse, les choses vont s'éloigner petit à petit de la maison. Mais le cœur... Pourquoi commencer par la maison? Comment se fait-il qu'elle soit souillée? Vous vous rappelez peut-être quand David a péché avec l'histoire de Bathsheba, il dit « contre toi seul, j'ai péché. Et mon péché, ton péché, c'est une offense à Dieu. Et le cheminement commence par la réconciliation avec Dieu. » Dieu n'est pas souillé, mais la source, le chemin est impossible à rejoindre. Et ce chemin ne part pas de toi, mais il part de la place où est Dieu. Alors, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, dit-il. Ne soyez pas négligents. Et puis, ils vont se lever, ils vont se sanctifier. C'est toi qui dois faire ce cheminement. C'est toi dans ta vie. Quand je dis toi, je dis moi. Mais c'est très, très important. Parce que peut-être qu'on trouve que autour de nous, on voit très bien les choses. Hein. Peut-être qu'autour de nous, on trouve, oh là là, Qu'est-ce que c'est lourd les cultes? Mais est-ce que tu as à le porter d'abord, si j'ose te dire? Bon, il n'y a pas d'amour. Est-ce que l'amour. Une question, excusez-moi. Ici, est-ce que quelqu'un connaît un verset où il est dit recevez l'amour des autres? Je n'en ai pas trouvé. Mais par contre, aimez-vous les uns les autres, oui. Et l'amour, tu n'as pas à l'attendre des autres. Tu le reçois de Dieu et tu le transmets aux autres. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est que peut-être tu n'en as pas donné. Commence. Alors, ils se lèvent, et ils vont travailler pendant 16 jours et au bout, c'est nickel. Mais voilà, c'est une maison propre, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui efface le péché? Tibère, tu as une idée? Ok. Seigneur Jésus est mort pour nous sur la croix. Ce qui efface le péché, c'est la vie du Seigneur Jésus. C'est le sang de Christ. Et là, on peut très bien se réformer, repeindre. Enfin bref, c'est nickel, mais la maison est vide. Comment remplir la maison? Alors, verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bonne heure et assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils amenèrent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs, en sacrifice pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire, pour Juda. Le roi dit au sacrificateur, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Ah, vous vous rendez compte? Oui, l'autel a été nettoyé. Mais s'il a été nettoyé, on peut faire les sacrifices. Et puis si on fait les sacrifices, ah, on est sur la bonne route. Et le roi dit au sacrificateur, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel. Ils égorgèrent les bœufs, et les sacrificateurs reçurent le sang et en firent aspersion sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers, ils en firent aspersion du sang sur l'autel, ils égorgèrent les agneaux, ils en firent aspersion sur l'autel. Et ils firent approcher les boucs du sacrifice pour le péché devant le roi et la congrégation, et ils posèrent leurs mains sur eux. Ah, vous avez lu? Il prend les bœufs, les béliers, les agneaux, et le sang est mis sur l'autel. Il prend le bouc. Et ce n'est pas le sang qui est mis sur l'autel, ce sont les mains des représentants du peuple qui vont être sur les boucs. Ils firent approcher les boucs du sacrifice pour le péché devant le roi et la congrégation. Ils posèrent leurs mains sur eux. Et ça, c'est la confession. Il y a eu le sang qui a été apporté sur l'autel. Le bouc est apporté devant le peuple. Confesse les péchés, et ensuite les sacrificateurs les égorgèrent et firent avec leur sang sur l'autel la purification du péché pour faire propitiation pour tout Israël. Car le roi avait dit que l'holocauste et le sacrifice pour le péché seraient pour tout Israël. Alors, vous suivez? Je répète, il y a les bœufs, les agneaux. Les béliers sont offerts et le sang est sur l'autel. Et après, les mains sont mises sur le bouc qui va être sacrifié pour le péché. Je ne sais pas si vous avez lu la première épître de Jean. Vous vous rappelez? Chapitre 1er. La fin du verset 7. Bon, on va lire le verset 7. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang est sur l'autel. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je continue la lecture. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Ça veut dire, si nous disons que nous n'avons pas le péché en nous, la source, eh bien, c'est pas vrai. Il paraît qu'une fois un prédicateur avait dit ceci, « Ça fait 14 ans que je n'ai pas péché. » C'est dommage pour lui parce que ça venait de se finir, les 14 ans. Et si tant est que ce fut vrai avant. Non, non, non. Si tu nies ça, tu ne peux pas être guéri. Si tu nies que tu es fondamentalement un pécheur, tu ne peux pas être guéri. Je continue la lecture. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc il faut confesser le péché. Ce n'est pas dire « Seigneur, pardonne-moi ». Quand David confesse son péché, il dit « contre toi seul, j'ai péché ». Il n'y cache rien. Et bienheureux l'homme dont le péché est couvert. Mais pour que le péché soit couvert par le sang, il faut que je le découvre, que je le confesse. Et quand il confesse le péché, là, c'est l'image de poser les mains sur la victime qui va aller mourir à leur place. Et il paraît que quand il pose les mains, excuse, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ça va ? On appuie. Un peu comme pour dire très fortement, oui Seigneur, je retiens rien. Parce qu'il y a des moments où je ne retiens rien. J'accepte ça. Sans toi, je ne peux pas aller plus loin. Sans ce que tu as fait, ce n'est pas possible. Et j'ai cette culpabilité qui pèse sur toi. Et j'accepte que tu partes. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Le sacrifice pour le péché, la confession du péché. Et ils font pour tout Israël. Vous savez, dans cette histoire-là, ça fait, je crois, attendez, je l'ai noté ailleurs, je crois que ça fait 250 ans qu'il y a eu la division d'Israël. Ézéchias, il n'a pas perdu la mémoire, hein. Mais c'est pour tout Israël. Parce que la pensée de Dieu, c'est pas toi. D'abord, la pensée de Dieu, si j'ose dire, je fais une parenthèse, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est Christ. C'est la gloire de Christ. Et ta vie s'inscrit dans ce sens-là. Et tu n'es pas le centre du monde, tant pis. Et donc, là, il pense aux autres, pour tout Israël, parce que la pensée de Dieu, c'est tout Israël, malgré les conséquences. Et il va faire ce cheminement, non pas pour lui-même, non pas pour les habitants de Jérusalem, mais pour tous. Alors, on continue. Il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, selon le commandement de David et de Gad, le voyant du roi. Wow. C'est pas quelque chose qu'il a inventé. C'est un cheminement qui est selon le commandement de Dieu, de David et de Gad et de Nathan le prophète. Car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. Il n'a rien inventé. Mais il y a le chemin qui a été donné par Dieu. Et vous voyez, on est passé du sacrifice de la purification, du nettoyage, du sacrifice pour le péché, de la confession, et tout d'un coup, eh bien, il va y avoir l'Holocauste. Vous vous rappelez, l'Holocauste, c'est ce sacrifice qui était entièrement pour Dieu. Et, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais s'il y a tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est parce que j'ai besoin de ça pour comprendre l'immensité de la valeur de l'œuvre de Christ. Il est mort pour mes péchés, il s'est offert à Dieu sans tâche. Il a accompli une œuvre parfaite, complète. Et à ce moment-là, on va offrir l'Holocauste, ce sacrifice qui était brûlé entièrement pour Dieu. Christ est mort pour moi, Christ est mort pour la gloire du Père. Et dans ce sacrifice-là, à ce moment-là, après que la question du péché soit réglée dans un sens, c'est un parfum de bonne odeur qui monte devant Dieu. Et au moment où commença l'Holocauste, le cantique de l'Éternel commença. Vous voyez, c'est fantastique. Il n'y avait pas eu de cantique de l'Éternel Ah, il y avait eu des idoles. Ah, on avait fait des choses extraordinaires. Ah, on s'était agité. On avait tourné en rond. Et pas de cantique. Mais il ne peut pas y avoir de cantique quand il y a encore, si j'ose dire, un péché de cantique vrai. Et ça, c'est au moment où l'Holocauste commença, le cantique de l'Éternel commença. Ça ne vous rappelle rien ? On a célébré la scène tout à l'heure. Dans la première scène que le Seigneur a instituée, au moment de partir vers Gethsémané, ils ont chanté une hymne et le sacrifice commençait. Au moment où l'Holocauste, où commença l'Holocauste, le cantique de l'Éternel commence. On va voir des contes. Mon Seigneur, il est parti à la croix en chantant. Et le compte à rebours était lancé, ça n'allait pas s'arrêter. Il est allé au bout. Il est parti, et puis la suite dans le passage qu'on a, c'est la joie. Il a vécu ça, il est parti en chantant, il s'est offert, il a souffert. Et après, il y a la joie, à cause de la joie qui était devant lui. Et alors, je vais revenir, les trompettes, avec l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël, toute la congrégation se prosterna. Ça peut être traduit, toute la congrégation se mit à genoux. Vous imaginez un peu, vous êtes à Jérusalem, il y a le temple, tout le monde est debout, il y a eu les sacrifices, il y a eu le chant qui commence, et tout le monde se met à genoux, devant Dieu. Et toute la congrégation se prosterna et le cantique se chanta. Les trompettes sonnèrent tout le temps jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui se trouvaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Et le roi Ézéchias, les chefs, dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David et d'Azaph le voyant. Et ils louèrent avec joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Il n'y avait pas eu de joie depuis tellement longtemps dans le pays, de vraie joie. Et là, il y a la joie. C'est formidable. Et alors, Ézéchias dit, vous êtes maintenant consacrés à l'Éternel. Approchez-vous, amenez des sacrifices, des offrandes de louange. Et toute la congrégation approche. Vous avez vu, je répète, hein, excusez-moi. Ézéchias tout seul, 14 lévites, les autres lévites, toute la congrégation, et tout le monde est là, et tout le monde chante, et tout le monde est rempli de joie. Et la congrégation amena des sacrifices, des offrandes, de louanges, et tous ceux qui avaient un esprit libéral amenèrent des holocaustes. Et le nombre des holocaustes de la congrégation fut de 70 taureaux, 100 béliers, 200 agneaux, pour cela pour l'holocauste à l'Éternel. Je vais sauter au verset 35. Il y eut aussi des holocaustes en abondance avec les graisses et des sacrifices de prospérité et des libations pour les holocaustes. Sacrifice de prospérité ou sacrifice de paix. On va réviser. Sacrifice pour le péché, obligatoire parce que j'ai péché. Holocauste, c'est la reconnaissance, c'est pas obligatoire, c'est un sacrifice libéral. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même. Sacrifice de paix ou de communion ou de prospérité, on offre par exemple un bœuf, et puis on enlève la graisse brûle sur l'autel, on enlève l'épaule droite, le sacrificateur prend l'épaule, et celui qui a offert avec toute sa famille et ses amis mange le reste. L'Éternel est nourri, si j'ose dire, par ce sacrifice, le sacrificateur est nourri par ce sacrifice, et les peuples et l'adorateur est nourri par ce sacrifice. Ensemble, le même sacrifice, c'est la communion. Et de l'adoration découle la communion. Et le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent. Et avec tout cela, il y a la joie. de ce que Ézéchias a fait frais vraiment un beau travail. Non, non, j'ai pas bien lu. De ce que Dieu avait disposé le peuple, car la chose fut faite soudainement. Et le secret de tout ça, c'est que Ézéchias s'est levé. Oui, il y a eu tout cela, mais qui c'est qui a fait bouger le cœur? L'enthousiasme d'Ézéchias? Non, Dieu. Qui c'est qui a produit tout ça? Dieu. Vous pouvez faire la plus belle prédication du monde sans Dieu, et vous pouvez bégayer que ça ne va pas bien, mais avec Dieu, ça peut très bien marcher. C'est Dieu qui agit, et c'est ça qui est important. Ce que Dieu fait en toi et par toi est bien plus important que ce que tu crois faire. Mais il faut quand même te lever. Bon, on continue? Parce que l'histoire n'est pas finie quand même. Ézéchias, en fait, je vous rappelle un petit détail. Un mois avant, le temple est fermé. Il y a de l'isole partout. En un mois, qu'est-ce qu'ils en ont fait du travail? Mais en un mois, qu'est-ce que Dieu a fait du travail? Ça veut dire qu'une situation désespérée n'est jamais désespérée pour Dieu. Mais ça veut dire aussi que si tu ne rentres pas dans ce projet-là, il n'y aura rien. Okay? Nous rentrons, soit par nos prières, soit par notre action, nous rentrons dans ce que Dieu veut faire. Et c'est Dieu qui agit. Nous rentrons dans son travail. Quand je prie, quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour la conversion de quelqu'un, c'est pas toi qui vas faire le travail. Dieu désire que tu pries. C'est pas parce que tu vas prier 1000 fois que tout d'un coup il va dire « Ok, je le fais ». C'est pas comme ça que ça marche, c'est parce que c'est pas ma prière qui est Dieu, mais c'est Dieu. Et il t'invite à rentrer dans son travail. C'est fabuleux. C'est pour ça que les réunions de prière sont pas inutiles. Et les moments de prière que l'on passe avec le Seigneur. Parce que nous rentrons dans le travail de Dieu. Ézéchias envoya vers tout Israël et Juda et écrivit ainsi des lettres à Éphraïm et Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem pour faire la Pâque de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi et ses chefs et toute la congrégation à Jérusalem te conseillent pour faire la Pâque au second mois. Oh, c'est le premier mois que c'est ça. Mais il y avait aussi la disposition de la grâce de Dieu. Quand ce n'était pas possible, il y avait le second mois. Et Dieu ouvre la porte et est sensible au fond aussi à notre limite, à nos faiblesses. Donc on va faire la Pâque le second mois parce que le premier mois, ce n'était pas prêt. Car ils ne pouvaient le faire en ce temps-là, car les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en nombre suffisant. Le peuple n'avait pas été rassemblé à Jérusalem. Et la chose fut agréable aux yeux du roi et de toute la congrégation, et ils déterminèrent de faire passer une proclamation par tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour qu'on vînt faire la Pâque à l'Éternel, le Dieu d'Israël, à Jérusalem. Car depuis longtemps, ils ne l'avaient pas faite comme il est écrit. Quand on pense à la Pâque et qu'on regarde l'histoire du peuple, il n'y en a pas eu beaucoup de Pâques. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et pourtant, Dieu l'avait dit. Et Dieu n'a pas fermé les yeux sur ça. Dieu n'a pas fermé les yeux sur ça. Et de notre côté, il a aussi patienté. Les courriers allèrent avec les lettres de la main du roi et de ses chefs pour tout Israël et Juda, selon le commandement du roi en disant « Fils d'Israël, retournez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra au reste d'entre vous qui est échappé à la maison des rois, à la main des rois d'Israël. Et ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Il les a délivrés à la destruction comme vous le voyez. Maintenant, ne raidissez pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel et venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel, votre Dieu, afin que l'ardeur de sa colère se détourne de vous. Car si vous retournez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde devant ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Cette lettre, il me semble, on peut peut-être l'appeler le mode d'emploi du réveil. Retournez à l'Éternel. C'est un appel à la repentance. L'obstacle d'une vie, l'obstacle au réveil, l'obstacle pour une vie réelle pour le Seigneur, c'est le péché. Le péché. Et le premier point, retourner à l'Éternel. Pour retourner à l'Éternel, c'est la repentance. Revenez. Et puis, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne cherchez pas d'excuses. Ne dites pas c'est les autres. Revenez. Souvent, on va chercher beaucoup d'excuses. On va être des juges pour les autres. Non, le problème, il est en toi. Quel que soit. Je ne suis pas en train de vous accuser. Hein. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est vrai? Vous êtes content de votre vie? Il y a quand même toujours un truc où on ne se sent pas tout à fait. T'es d'accord? Ouais. Retournez à l'Éternel. Le chemin est ouvert. Toujours. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste parce que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que Christ sait tout faire. Il est fidèle et juste par rapport à Christ. Il est fidèle et juste parce qu'il est Dieu. Et là, quand tu viens comme ça, tu es pardonné, parce que quand j'ai péché, j'ai besoin de pardon. Quand j'ai péché, je suis souillé, j'ai besoin d'être purifié. Et je sais que je suis pardonné, non pas parce que je le sens, non pas parce que je saute de joie, non pas parce que je me sens bien. Je sais que je suis pardonné parce qu'il me le dit et que je le crois. Et c'est comme ça. Alors retournez à l'Éternel. Un peu plus loin. Maintenant, ne raidissez pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Je me souviens, il y a longtemps, on était en Suisse. Et on campait avec la caravane près d'une ferme. Et on pouvait rentrer. Alors, toutes les vaches étaient dans la montagne. Et les amis nous avaient prêté la ferme parce qu'il y avait de quoi se laver, etc. Alors, j'étais avec Luc Etienne, on marchait côte à côte. Il avait 6 ou 7 ans. Et puis, tout d'un coup, la lumière s'éteint. Et j'ai senti une main qui prenait la mienne. Et j'ai compris quelque chose. Donner la main à l'Éternel. Luc Etienne a donné la main à son père. Et je ne crois pas qu'il y a d'image plus douce, plus belle que de donner la main au Seigneur. L'an dernier, au WASH, on avait un chant où, dans l'enthousiasme, les jeunes chantaient « Je ne lâcherai jamais ta main ». C'est super, hein? Vous n'avez jamais eu peur de lâcher la main? Moi, j'ai eu très peur, parfois. Mais ce qui me rassure, c'est, oui, au fond, j'avais peur de la lâcher, mais je n'avais pas envie. Et tout en ayant envie, enfin, c'est compliqué. On est compliqué. Et ce que j'ai lu, Ésaïe 41, « Je tiens ta main droite ». Quand tu tends la main au Seigneur, ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est lui. Hein. Mais tu dois être conscient de ce mouvement-là. La main, tu la sens. T'es rassuré, donnez la main à l'Éternel. Et venez à son sanctuaire, venez vers lui, revenez vers lui, cherchez le lieu de sa présence, cherchez sa présence, pas à pas, jour après jour. Et servez l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez ? Repentance, foi, cherchez sa présence et le servir. Dans cet ordre. Et puis on découvre quoi ? L'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est miséricordieux. Oui, la porte est ouverte. Oui, le chemin est clair. Mais c'est à toi de de faire le pas. Alors ils ont fait la Pâque, les courriers sont partis, et puis il y en a qui se sont moqués, mais ils ont été aidés, la main de Dieu était sur eux. Et selon la parole de l'Éternel, ils vont venir, et ils ont fait aussi la fête des pains sans levain. Vous savez ce que c'est la fête des pains sans levain ? Il y avait la Pâque, notre Pâque, Christ a été sacrifié, c'est pourquoi célébrons la fête, liée à la Pâque, pendant une semaine, on n'avait pas le droit d'avoir du levain dans la maison, et de manger des pains avec du levain. Le levain, c'est une image du mal. Et cette fête des pains sans levain, c'est une vie où on recherche la sanctification, un cheminement de sanctification où on s'éloigne du péché. 7 jours, un ensemble, ça représente toute ta vie, toute ma vie. Alors tu vas peut-être me dire, moi j'ai envie d'aller faire la fête avec mes copains. J'ai envie, oh, je ne veux pas gâcher ma vie quand même. Il y a tellement de choses intéressantes à vivre. Mais je te signale que vivre pour le Seigneur, c'est une fête. Mais quelle fête ! Bien plus que tout ce que le monde te propose. Notre Pâque, Christ a été sacrifié. C'est pourquoi, à cause de ça, vivons dans un chemin à la suite du Seigneur, dans le désir de ne pas pécher, dans un chemin de séparation du péché. Ils font la fête du pain sans levain pendant. Et il y avait une très grande congrégation, et puis il y avait d'autres hôtels qui étaient là. Ils ont continué le nettoyage dans Jérusalem. Et puis le 14e jour, on égorge la Pâque, et puis dans la joie, dans la précipitation, il y en a qui n'étaient pas prêts, qui ont mangé la Pâque, ils n'auraient pas dû. Et Ézéchias va prier pour eux. Et au verset 19, « Que l'Éternel qui est bon pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher leur Dieu, à rechercher Dieu l'Éternel, le Dieu de leur Père, bien qu'il ne se soit pas conformément à la purification du sanctuaire. » Et l'Éternel écouta Ézéchias et guérit le peuple. Ça ne veut pas dire que je dois faire les choses n'importe comment. Ça veut dire qu'il y a toujours un chemin. Ça veut dire que mon Dieu, ton Dieu, est attentif à ce que tu es. Vous savez, quand David a voulu construire le temple, Dieu a dit non. Mais il lui a dit aussi, tu as bien fait d'avoir eu cette pensée. Vous voyez, il a jugé ce que David a fait sur son désir. Là, ils sont arrivés dans l'ignorance. Ce n'était pas une révolte, c'était une forme d'ignorance. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait la Pâque. Ça faisait tellement longtemps. Et puis, ils avaient vraiment envie. Et puis, ils ont manqué une étape. Est-ce que c'était la condamnation ? Non, non, c'était sérieux. Parce que Dieu est Dieu. Mais c'était la grâce de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Ça ne justifie en rien ce qui n'est pas selon la parole de Dieu. Mais si tu crois que tu vas être accepté parce que tu es vraiment nickel sur toute la parole de Dieu, c'est que tu n'as peut-être pas bien lu la parole. D'accord ? Si certains prêchent des choses de ce style, il faut croire au Seigneur Jésus et être fidèle jusqu'au bout. Et si tu n'es pas fidèle jusqu'au bout, c'est fini pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé par l'œuvre de Christ. Tu es sauvé par ton légalisme. Mais est-ce que c'est possible ? Non. Et si c'est ta fidélité qui a le dernier mot, ce n'est pas l'œuvre de Christ qui t'a sauvé, c'est ta fidélité. Est-ce que c'est possible ? Non. Mais ça veut dire aussi que si tu reconnais, oui Seigneur, tu sais, vraiment de tout mon cœur, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Mais tu vois, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Pardonne-moi, donne-moi de grandir, donne-moi de me comprendre et d'être conséquent. Ézéchias, il s'est lancé dans ce combat, mais combien de temps il avait médité cela avant ? Combien de temps il avait souffert de ce qui se passait ? Combien de temps ? Et tout d'un coup, il se lève, il part et Dieu va avec lui. Et tout le monde est réjoui parce que Dieu agit soudainement. Et là, il y aurait peut-être des larmes qui auraient pu venir. Ils ont fait, verset 21, ils célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel jour après jour avec les instruments de la louange de l'Éternel. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui étaient entendus dans la bonne connaissance à l'égard de l'Éternel. Et ils mangèrent pendant les 7 jours les offrandes de la fête, sacrifiant des sacrifices de prospérité, exaltant l'Éternel, le Dieu de leur père. Et toute la congrégation résolut de célébrer encore 7 jours. Ils célébrèrent pendant les 7 jours avec joie. Encore plus. Vous avez lu le premier chapitre de l'Épître de Jean ? Bon, on a lu un parti, d'accord, mais juste avant. Jean, quand il a connu le Seigneur Jésus, c'était un jeune homme. C'était peut-être le plus jeune de la bande. Là, il a presque 100 ans. Et si vous lisez ça, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous avons vu, et nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il a presque 100 ans. Il n'y a pas de l'enthousiasme, là ? C'est fabuleux. Mais toute ta vie, tu es toujours, disons, la veille du jour où tu vas être encore plus émerveillé. Parce que Dieu est Dieu. Et là, pendant 7 jours, ils ont fait la fête des pains sans levain. Allez, on recommence, 7 jours. Et c'est la joie qui est multipliée. Et c'est dans ce chemin-là qu'est le bonheur. C'est dans ce chemin-là, dans la découverte de jour en jour de ce chemin avec le Seigneur, qui il est, celui qui est mort pour moi sur la croix. Ce matin, on s'est réjouis en pensant au jour où on allait le rencontrer. Celui que je vais rencontrer n'est pas un inconnu. Je vais le voir. Face à face. Mais celui que je vais rencontrer, c'est celui qui est mort pour moi. C'est celui qui m'a accompagné. C'est celui pour qui je n'ai pas toujours été vraiment fidèle et qui m'a toujours accueilli. C'est celui qui m'a gardé pour que je ne tombe pas. Je serais tombé sans lui. C'est celui qui a été fidèle dans toute ma vie, toute ta vie. Et celui-là, je vais le voir, tu vas le voir. Et c'est une fête, et c'est une grande joie dans Jérusalem. Et puis, c'est le résultat de tout cela, c'est que la prière de ceux qui étaient là ont été entendues dans les cieux. Et cela, ils le vivent sur la terre. Et déjà, quelque chose du ciel, tu es invité à le vivre sur la terre. Mais ce chemin-là commence par toi. Ce chemin-là, c'est quand tu te lèves. C'est quand tu acceptes de regarder en face ce qui te concerne. C'est quand tu vas confesser ton péché. C'est quand tu vas avancer, quand pas à pas, tu vas être plus près du Seigneur. Et vous savez, le livre des Chroniques, c'est le livre d'histoire de l'humanité. Si, quand on a fait Chroniques à format Bible, c'est Samuel Kecklin. Je propose, vous pourriez l'inviter. Bref. Je vais vous lire comment il a lu le début du livre. Adam, il s'était mieux que moi. Hein. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaël, Jéred, Enoch, et ainsi de suite. Pam, pam, un nom. Et derrière ce nom, une vie. Et tout ce livre des chroniques est dans ce sens-là. Alors, quand vous lirez les débuts des chroniques, passez pas trop vite sur les noms. Mais ton nom, il s'ajoute dans l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Cette histoire de l'humanité t'en fait partie. Ton nom s'ajoute. Alors, quelle vie y a-t-il derrière ton nom ?